Histoire de la Réformation du XVIe siècle. 16-7. Départ des Valstedts. Exhortation et prière. Déclaration de guerre. Conseil de guerre. L'armée des cantons sur Liefelsberg. Le bois de Hêtre. Attaque d'avant-garde. Ils sont repoussés. Le prêtre de Sug. Le marais. Tristesse de Zwingle. L'armée de Zurich monte l'Albi. Hâte et conseil au Hêtre. Paroles de Zwingle et de Schweizer. Vue de l'Albi. Arrivée de la bannière. Les Valstedts atteignent la hauteur. Reconnaissance de Jor. Appel et entreprise de Jor. Cette nuit si agitée à Zurich n'avait pas été plus tranquille à Capel. On y avait reçu coup sur coup les avis les plus alarmants. Il fallait prendre une position qui permît à la troupe, réunie au couvent, de résister à l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts attendus de la ville. Au-dessus du monastère au nord-ouest du côté de Zurich, le sol s'élève rapidement et forme un plateau que le conseil de guerre avait ci-devant inspecté et trouvé propre à un campement. On jeta les yeux sur cette hauteur, traversée par la grande route et qui présente une surface inégale mais assez étendue, où avaient été des granges dont il ne restait qu'un pan de muraille. Un ruisseau profond, le Mühle ou Mühlegraben, l'enferme au nord et à l'ouest, et un petit pont jeté sur ce torrent était alors la seule issue du côté de Zurich, circonstance qui devait rendre très dangereuse une retraite précipitée. Au sud-est, du côté des Berchtesgaden, est un bois de hêtre d'une forme allongée. Au sud-ouest, du côté de Sug, la grande route et un terrain marécageux. Un peu au-dessous du plateau des granges et au-dessus du couvent se trouvait la laiterie où se préparaient le beurre et le fromage des habitants du monastère, seuls propriétaires dans ces quartiers. « Conduisez-nous aux granges !» s'écrièrent tous les soldats. On les y conduisit. On plaça l'artillerie près du pan de mur, au-dessus de la laiterie. Le front de bataille fut rangé en face du monastère et de Sug, et des sentinelles furent posées au pied du coteau. En même temps, le signal est donné à Sug et à Bar. On bat l'appel. Les soldats des cinq cantons se mettent sous les armes. Un sentiment universel de joie les anime. Les temples s'ouvrent, les cloches sonnent. Les troupes serrées des cantons entrent dans l'église de Saint-Oswald. On célèbre la messe. L'hostie est offerte pour les péchés du peuple et l'armée entière se met en marche à 9 heures, en saigne déployée. La voyer Jean Golder commande le contingent de Lucerne. Le Landamann, Jacques Troger, celui du Riz. Le Landamann Richmuth, ennemi mortel de la Réformation, celui de Schwitz. Le Landamann Zellinger, celui d'Underwald. Et Oswald Dos, celui de Zug. 8000 hommes marchent en ordre de bataille. Toute l'élite des cinq cantons est là. Frais et dispos à la suite d'une nuit tranquille, n'ayant qu'une petite lieue de pays à franchir pour atteindre l'ennemi, ces fiers Valstedts s'avancent d'un pas ferme et régulier sous le commandement de leur chef. Parvenus à la prairie communale de Sug, ils font halte pour y prêter serment. Toutes les mains se lèvent et ils jurent de se venger. On allait se remettre en marche quand quelques hommes âgés font signe qu'on s'arrête. « Camarades, s'écrie-t-il, nous avons longtemps offensé Dieu. nos blasphèmes, nos jurements, nos guerres, nos vengeances, notre orgueil, nos ivrogneries, nos adultères, lors de l'étranger, vers lequel nos mains se sont étendues, tous les débordements auxquels nous nous sommes livrés ont tellement provoqué la colère du Seigneur que, si ce jour il nous frappait, nous n'aurions que ce que ces crimes ont mérité. L'émotion des chefs s'était communiquée aux soldats. Toute l'armée plie le genou au milieu de la plaine. Il se fait un grand silence, et chaque soldat, la tête inclinée et se signant dévotement, récite à voix basse cinq pater, cinq ave et le credo. On eût dit pendant quelque temps qu'on était dans un vaste et silencieux désert. Tout à coup, le bruit d'une foule immense se fait de nouveau entendre. L'armée se relève. Soldats, disent alors les capitaines, marchons en toute hâte à l'ennemi. La grande bannière de Zurich arrivera bientôt à Capel. D'autres villes s'ébranlent pour soutenir les Zurichois. Attaquons-les avant qu'ils aient réuni toutes leurs forces. Si nous frappons le premier coup, nous garderons jusqu'à la fin l'avantage. Soldats, vous savez la cause de cette guerre. Ayez sans cesse devant les yeux vos femmes désolées et vos enfants mourant de faim. Alors, le grand sautier de Lucerne, revêtu des couleurs du canton, s'approche des chefs de l'armée. On lui remet la déclaration de guerre, datée du jour même, et scellée du sceau de Zug. Puis il part à cheval, précédé d'un trompette, pour porter cet acte au capitaine zurichois. Il était 11 heures du matin. Les Zurichois découvrirent bientôt l'armée ennemie et jetèrent un triste regard sur la faiblesse de celle qu'ils avaient à lui opposer. De minute en minute, le danger croissait. Tous fléchirent les genoux, et les regards se levèrent vers le ciel. Et chaque Zurichois, s'humiliant profondément devant Dieu, lui demanda la délivrance. La prière finie, on se prépara à la bataille. Il y avait à peu près 1200 hommes sous les armes. À midi, la trompette des cinq cantons retentit non loin des avant-postes. Goldli, ayant rassemblé les membres des deux conseils qui se trouvaient à l'armée, les officiers et les sous-officiers, et les ayant fait mettre en cercle, ordonna au secrétaire Reinhardt de lire la déclaration dont le sautier de Lucerne était porteur. Après la lecture, Goldli ouvrit le conseil de guerre. « Nous sommes en petit nombre et la force de nos adversaires est grande, » dit Landolt, bailli de Marbach. « Mais je ne reculerai pas au nom de Dieu, j'attendrai ici l'ennemi. » « Attendre !» s'écria le capitaine des hallebardiers, Rodolphe Ziegler. « Impossible ! Le peuple n'est point encore sous les drapeaux. Profitons du ruisseau qui coupe le chemin pour opérer notre retraite et provoquons partout une levée en masse. » C'était en effet un moyen de salut. Mais Rudi Gallmann, regardant un seul pas fait en arrière comme une insigne lâcheté, s'écria, en frappant avec force la terre de ses pieds, et jetant un regard de feu tout autour de lui, « c'est ici que sera ma tombe. » « Il est maintenant trop tard pour se retirer avec honneur, » dirent d'autres officiers. « Cette journée est dans les mains de Dieu. Remettons-nous sans réserve à sa volonté sainte et souffrons ce qu'il nous donne à souffrir. » On alla aux voix. Les membres du conseil avaient à peine levé la main au signe d'adhésion qu'un grand bruit se fit entendre auprès d'eux. « le capitaine !» s'écriait un soldat des avant-postes qui arrivait précipitamment. « Chut, chut !» répondaient les huissiers en le repoussant. « On tient conseil. »« Il n'est plus temps de tenir conseil, » reprit le soldat. « Conduisez-moi en toute hâte vers le capitaine. » « Nos sentinelles se replient !» s'écria-t-il d'une voix agitée, en arrivant près de Godly. L'ennemi est là. Il s'avance à travers la forêt avec toutes ses forces et un grand tumulte. Il n'avait pas fini de parler que les sentinelles qui se repliaient en effet de tous côtés accoururent. Et bientôt, on vit l'armée des 5 cantons gravir le coteau de Liefelsberg en face des granges. Parvenue sur cette hauteur, l'avant-garde découvrit sur le plateau, au-dessus de la laiterie, le camp des Uriquois. Elle s'arrêta. On apporta, en toute hâte, une grosse pièce de canon pour s'en servir contre la petite armée des réformés, et d'autres pièces d'artillerie furent braquées dans la même direction. Les chefs des Wallstedt étudiaient la situation et cherchaient à découvrir par où leur armée pourrait joindre celle de Zurich. Les Uriquois se faisaient la même question. « Pensez-vous, dit à l'abbé Genère de Capelle, le capitaine Godly, que l'ennemi puisse passer sous le couvent, du côté de l'Emmat, pour atteindre ainsi la hauteur, près d'Ebertschwil ?»« Impossible, répondit Genère, surtout avec de l'artillerie. Le sol est trop marécageux. » C'était pourtant la route que les Wallstedts devaient prendre. L'abbé n'était pas très expert en fait d'opérations militaires. Il se trouva un homme plus entendu qui comprit la possibilité de cette manœuvre. C'était Ulrich Bruder, sous-bailli de Husen, village au pied de l'Albi, à un quart de lieue de Capelle. Bruder fixait des regards inquiets sur le bois de hêtre qui s'étend du côté d'Ebertschwil. « Voilà, dit-il, par où l'ennemi débouchera sur nous. »« Des haches, des haches !» s'écrièrent aussitôt plusieurs voix. « Abattons le bois !» Godly, l'abbé et d'autres encore s'y opposèrent. « Si nous fermons le bois en en renversant les arbres, nous ne pourrons plus nous-mêmes y faire manœuvrer nos canons, » dirent-ils. « Eh bien, du moins, lui répondit-on, plaçons-y des canons et des arquebusiers. » Nous sommes déjà en si petit nombre, reprit le capitaine. Nous diviser serait imprudent, surtout au moment où l'ennemi va peut-être nous attaquer par la route du Sud. Ni la sagesse, ni la bravoure ne devaient sauver Zurich. On invoqua encore une fois le secours de Dieu, et l'on ne bougea. À 1 heure, les troupes des cantons, campés sur Liefelsberg, lâchèrent leur premier coup de canon, qui, passant au-dessus du couvent, aboutit au-dessous des granges. Un second passa par-dessus l'ordre de bataille. Un troisième vint tomber dans une haie adossée au mur. Alors, les Uriquois firent aussi jouer leur artillerie, et l'avant-garde des 5 cantons, inquiétée sur Liefelsberg, en descendit pour courir sur l'ennemi, en passant par le petit bois de Wisingen et les prairies nommées les Neugutes. Arrivés au-dessous du plateau et de la laiterie, les Wallstedts y placèrent quelques canons et recommencèrent l'attaque. Les plus vaillants des Uriquois, Dumizen, Vogely, Huber, Sprungli et d'autres, fermes près des pièces et des arquebuses, chargeaient, braquaient, pointaient, tiraient et repoussaient vigoureusement l'assaut. Le bruit était terrible et les décharges qui retentissaient jusqu'à Bremgarten et Zurich portaient au loin l'épouvante. Pendant cette lutte meurtrière, le corps d'armée des 5 cantons déployait sur Liefelsberg ses phalanges menaçantes, puis descendait vers le couvent pour venir en aide à l'avant-garde. Tout à coup, ils s'arrêtent et les chefs délibèrent. L'ennemi est campé sur la hauteur, derrière sa puissante artillerie, disent-ils, et il y a entre lui et nous des fossés et des haies fort épaisses que l'on ne pourrait franchir sans une perte considérable. Pendant ce temps, Dumizen ne cessait pas, et le canon de batterie qu'il commandait jetait de plus en plus la terreur dans les rangs des Valstedts. « Nous ne pouvons rester plus longtemps sous le feu, » s'écriaient ceux-ci. « Qu'on rappelle l'avant-garde. » Le trouble et le découragement étaient alors parmi les assaillants. « Et si des médiateurs se fussent présentés, » dit Bullinger, « on les eût sans aucun doute écoutés. » « Que faire ?» se répétaient les Valstedts, inquiets. « Avancer ? Impossible. Retourner vers Suk ? Quelle honte ! Il faudrait arriver à l'ennemi par les hauteurs des Birchfield, disaient plusieurs. Mais comment ? On en était là quand un prêtre se présenta. C'était un Zurichois nommé Rodolphe Wingartner, qui, dès son enfance, avait habité le couvent de Capelle, où il avait plus tard figuré au rang des moines et qui connaissait jusqu'au moindre sentier toutes les ressources de la position. À l'époque de la Réformation, le frère Rodolphe s'était réfugié à Sug, dont il était devenu curé. Il craignait maintenant que son plan de vengeance ne se changeât en une honteuse défaite. « Suivez-moi, » dit-il au chef, « je me charge de vous conduire sur la hauteur. » Aussitôt, on donne le signal de la retraite. Le feu cesse, et les Valstedts, faisant volte-face, redescendent en hâte au-dessous du couvent. Il était 3 heures. Bientôt, toute leur armée se trouve engagée dans ces basses prairies, située au-dessous de la chapelle de Saint-Marx, entre Capelle et les Mattes, que l'abbé avait jugé impossible à franchir. Les plus pesants canons s'enfoncent dans ce sol marécageux. Les plus légers eux-mêmes y demeurent. On crie, on fouette les chevaux, on pousse aux pièces. Ce n'est qu'avec un travail inouï qu'on parvient à avancer. Le découragement et l'effroi se répandent dans les rangs. On accuse le prêtre qui, seul en avant, montre du doigt la hauteur. On accuse les chefs. Des arquebusiers zurichois se jettent à la poursuite des Valstedts, se portent près de la chapelle de Saint-Marx et leur causent un immense dommage, en sorte que ceux-ci s'écrient « Si l'ennemi fond maintenant sur nous, nous sommes perdus. » Dans ce moment, des Zurichois qui s'étaient avancés dans le bois de hêtre, du côté des Birchfield, voient les Valstedts au-dessous d'eux, enfoncés dans le marais, et viennent, en toute hâte, en apporter au camp la nouvelle. « Braves Zurichois, » dit alors Rudy Gellmann, « si nous attaquons les 5 cantons dans ce moment, c'en est fait d'eux. Mais si nous leur permettons d'atteindre la hauteur, c'en est fait de nous. » À ces mots, quelques-uns s'apprêtent à pénétrer dans le bois pour fondre de là sur les Valstedts découragés. Et Hubert de Tuffenbach se met à les suivre avec son artillerie. Cette manœuvre eut décidé la défaite des 5 cantons, car les canons zurichois, postés sur la hauteur du côté des Birchfield, auraient arrêté et culbuté l'armée des petits canons dans les marais où elle était engagée, bien plus facilement encore que lorsqu'elle avançait en bon ordre, au-dessus du couvent, sur une route frayée. Mais le chef s'obstine, et la sagesse lui fait défaut. Godley, s'étant aperçu du mouvement, « Où allez-vous » dit-il au canonnier. « Qui vous a commandé de vous jeter dans le bois ?»« Hubert de Tuffenbach » répondit-il. « Et moi, reprend le commandant, « je vous ordonne de demeurer. Ne savez-vous pas que l'on est convenu de ne point se séparer ?» Puis il fait revenir les tirailleurs en sorte que le bois reste entièrement ouvert à l'ennemi. Seulement les Zurichois dirigent leur batterie et leur ordre de bataille de ce côté et tirent de temps en temps, à coups perdus, dans les hêtres afin d'empêcher les Valstedts de s'y établir. Cependant, la grande bannière de Zurich et tous ceux qui l'entouraient, parmi lesquels se trouvait Zwingle, s'approchait en désordre de l'Albi. Depuis une année, la gaieté du réformateur avait tout à fait disparu. Il était grave, mélancolique, facilement ému, portant sur son cœur un poids qui l'accablait. Souvent, il se jetait avec larmes aux pieds de son maître et cherchait dans la prière la force dont il avait besoin. On n'avait remarqué en lui ni irritation, ni colère. Au contraire, il avait reçu avec douceur les avis qu'on lui avait donnés et était resté sincèrement uni à des hommes dont les convictions n'étaient point les siennes. Maintenant, il avançait tristement sur la route de Capel, et Jean Mahler de Winterthur, à cheval quelques pas derrière lui, entendait ses cris et ses soupirs, entrecoupés de ferventes prières. Si on lui adressait la parole, on le trouvait ferme et rempli de cette paix que donne la foi. Mais il ne cachait pas la conviction, où il était, qu'il ne reverrait plus ni sa famille, ni son église. Ainsi allait en avant la troupe de Zurich, marche lamentable qui ressemblait à un convoi funèbre, plutôt qu'à une armée se rendant à la bataille. À mesure qu'on approchait, on voyait accourir sur la route du côté de Capel, exprès sur exprès, suppliant les Zurichois de se hâter de rejoindre leurs frères. À Adliswil, l'armée ayant dépassé le pont sous lequel coulent les eaux impétueuses de la Sille et traversé le village, au milieu des femmes, des enfants, des vieillards, qui, debout devant leur chaumière, regardaient avec tristesse cette troupe débandée, elle commença à monter l'Albi. Elle se trouvait à moitié chemin de Capel quand le premier coup de canon se fit entendre. On s'arrête, on écoute. Un second, un troisième suivent le premier. On ne peut plus en douter. La gloire, l'existence même de la République sont compromises, et l'on n'est pas là pour la défendre. Le sang s'allume dans les veines. Soudain on se réveille, et chacun se met à courir au secours de ses frères. Mais le chemin de l'Albi était alors bien plus rapide que de nos jours. L'artillerie mal attelée le passait difficilement. Les vieillards, les citadins, peu habitués à la marche et couverts de pesantes armures, n'avançaient qu'avec peine, et ils formaient pourtant la majeure partie de la troupe. On les voyait rester l'un après l'autre, épuisés et haletants, le long de la route, près des broussailles et des ravins de l'Albi, s'appuyant contre un hêtre ou un frêne, et regardant d'un œil découragé les sommités de la montagne que couronnaient d'épais sapins. Ils se remettent pourtant en marche. Les cavaliers les plus intrépides des fantassins hâtent leur course. Et, arrivés devant l'auberge du hêtre sur le haut de l'Albi, ils s'y rassemblent pour prendre conseil. Quelle vue se présentait alors à leur regard ? Zurich, le lac, ses bords riants, les vergers, les champs fertiles, les coteaux couverts de vignes, le canton presque tout entier. Hélas, bientôt peut-être, les bandes des Wallstätts dévasteront toutes ces richesses. À peine ces hommes généreux ont-ils commencé à délibérer que de nouveaux messagers de Capel se présentent et s'écrient « Hâtez-vous !» À ces mots, plusieurs Zurichois s'apprêtent à presser leur course vers l'ennemi. Le capitaine des arquebusiers, Tonning, les retient. « Bons amis, leur crie-t-il, contre de si grandes forces, que pouvons-nous tout seuls? Attendons ici que notre peuple se soit rassemblé, et puis fondons sur l'ennemi avec toute une armée. » Oui, si nous avions une armée, répondit le capitaine général, qui, désespérant de sauver la République, ne pensait plus qu'à périr avec gloire. Mais Nous n'avons qu'une bannière et point de soldats. Comment rester tranquille sur ces hauteurs, dit Zwingle, tandis que nous entendons les coups que l'on porte à nos concitoyens? Au nom de Dieu, je marche vers nos braves, prêt à mourir pour les sauver. Et moi aussi, dit le vieux Banneret Schweizer. Quant à vous, ajouta-t-il en se tournant, avec un regard mécontent vers Tonink, attendez d'être un peu remis. Je suis tout aussi frais que vous, répondit Tonink, le feu au visage, et vous verrez bientôt si je sais me battre. Tous précipitèrent leur marche vers le champ de bataille. Alors se présente au regard des Zurichois émus l'un des spectacles les plus magnifiques de la Suisse. Devant eux, au pied de l'Albi, au milieu de pelouses émaillées, s'élèvent pittoresquement les murs et le clocher de l'antique abbaye de Capelle, autour de laquelle se livrent de si rudes combats. Plus bas s'étendent la plaine fertile de Bar et ses milliers d'arbres fruitiers qui rappellent l'Italie et ses richesses. Derrière ce verger de la Suisse apparaît le lac alpestre de Suc, avec sa figure helvétique, ses promontoires gracieux et ses belles eaux qui viennent mourir au pied du Rigi. À gauche, cette montagne maintenant si admirée. À droite, le Pilate, l'une facile et boisée, l'autre escarpée et rude, forme comme les deux colonnes d'un amphithéâtre gigantesque, au fond duquel les glaciers de l'Oberland bernois, affermis par la main divine sur de colossales assises, élancent dans les airs leurs pyramides, fières et imposantes. Sur le devant, trois pics semblent se donner la main. La Vierge, dit Jungfrau, toute pure et toute blanche, et le moine, der Mönch, tout sombre et tout noir, rapprochés par les flancs escarpés de l'Eiger, forment avec lui un groupe majestueux. Plus à l'Orient, les dents nombreuses du Wetterhorn et du Schreckhorn étendent pittoresquement leurs vives arêtes et leurs rochers abrupts et neigeux. Et le roi de cette chaîne, avec ses 13 200 pieds de hauteur, élève, au-dessus d'océans de glace et de gouffres décharnés, sa tête sévère et menaçante. Au-delà du Rigi, du côté du Levant, commence un second amphithéâtre. Ce sont les glaciers d'Underwald, du Riz, de Schwitz, le Titlis, le Susten, le Spitzliberg, le Rehrortock, le Scherborn, bien d'autres pics encore, avec leurs nues parois, leurs glaces éblouissantes, leurs aiguilles élancées et leurs dômes arrondis. Plus loin s'ouvre un troisième tableau, formé par les Alpes de Glaris, leurs abîmes stériles et leurs cônes hardis, au milieu desquels le Glarnich étend ses lourdes masses et ses escarpements crevassés. Jamais, peut-être, la main divine n'a réuni tant de grandeur, et cette armée de glaciers, rangée en bataille dans les cieux, fait sentir encore plus profondément aux hommes et à leurs chétives bandes leur petitesse et leur néant. La descente de l'Albi est rapide. Les Zurichois s'enfoncent dans les bois, passent au-dessus du petit lac de Turler, traversent le village de Hussein et arrivent enfin près des granges. Il était 3 heures quand la bannière passa le pont étroit du mule qui y conduisait, et il y avait si peu de monde autour d'elle que chacun tremblait en voyant cet étendard vénéré exposé aux attaques d'un ennemi si redoutable. Les forces des cantons se déployèrent alors aux yeux des Zurichois. Zwingle ne pouvait détourner ses regards de ce spectacle menaçant. Les voilà donc, ces phalanges de soldats. Quelques instants encore, et les travaux de 11 années seront peut-être anéantis pour toujours. Un citoyen de Zurich, Léonard Boukhardt, peu favorable aux réformateurs, lui dit d'un ton dur « Eh bien, maître Ulrich, que dites-vous de cette affaire? Les raves sont-elles assez salées? Qui les mangera maintenant ?»« Moi, répondit Zwingle, et plus d'un brave qui est ici dans la main de Dieu, car c'est à lui que nous sommes, dans la vie et dans la mort. » Et moi aussi j'aiderai à les manger, reprit aussitôt Boukhardt, honteux de sa rudesse. J'y veux mettre ma vie. C'est ce qu'il fit, ajoute la chronique, et bien d'autres avec lui. À mesure que les hommes de Zurich arrivaient, ils se rangeaient en ordre de bataille. Pendant ce temps, les chefs tenaient conseil. Ils avaient à peine une armée mal organisée de 2000 combattants. « Nous sommes en petit nombre, » disaient quelques-uns, « et nous avons devant nous un ennemi formidable. Il faut nous retirer sur l'Albi. »« Ah !» répondaient d'autres avec tristesse, « puisque c'est dans le nombre et non en Dieu que nous nous confions, il n'y a rien de bon à attendre. C'est avec peu de soldats que nos ancêtres ont fait de grandes choses. »« Gardons-nous de lâcher pied !» s'écriaient plusieurs. L'ennemi épie tous nos mouvements. Notre départ ranimerait son courage. Il fondrait sur nous, et au lieu d'une retraite honorable, nous aurions une honteuse déroute. On résolut de rester. Cependant, les soldats des cinq cantons étaient sortis à grand-peine du marais, et, passant par la prairie de Malenstein, ils étaient enfin arrivés sur le plateau élevé que longe la route de Capelle à Eberschwil, à 1000 pas de l'armée réformée. Ils s'y établirent aussitôt et disposèrent leurs canons sur la route. Mais aucun d'eux ne pénétra dans le bois qui les séparait des Zurichois. Le prêtre était venu à bout de son entreprise et ses bandes redoutables allaient bientôt accomplir leur vengeance. Il était 4 heures. Le soleil baissait rapidement. Les Wallstedts ne bougeaient pas, et les Zurichois, commençant à croire que l'attaque serait renvoyée au lendemain, reprenaient courage. Où sont-ils, ceux qui ont tant fait les braves, disaient-ils, et qui nous ont traités d'hérétiques? Qu'ils se montrent. Les chefs des 5 cantons, voyant la grande bannière de Zurich arriver, et le jour décliné, cherchaient un lieu où ils pussent faire passer la nuit à leurs troupes. Les soldats, s'apercevant de l'hésitation de leur chef, firent éclater leurs murmures. « Les gros nous abandonnent, » disait l'un. « Les capitaines craignent de mordre la queue du renard, » disait un autre. « Ne pas attaquer, » s'écriaient-ils tous, « c'est perdre notre cause. » Pendant ce temps, un homme intrépide préparait la manœuvre habile qui devait décider de cette journée. Un homme d'Uri, Jean Jaus, ancien bailli de Sargan, bon tireur et guerrier expérimenté, osa pénétrer seul dans le bois de hêtre, appelé le Kalchofen, qui séparait les deux armées. Le trouvant non gardé, il s'avança jusque tout près des Zurichois. Et là, cachés derrière les arbres, ils purent remarquer, sans être vus, leur petit nombre et leur imprévoyance. Puis, se retirant avec précaution, ils rejoignirent les chefs à l'instant même où le mécontentement allait éclater. « Voilà le moment d'attaquer l'ennemi, » s'écria-t-il. « Cher compère, » lui répondit Troger, capitaine en chef d'Uri, vous ne prétendez pourtant pas que l'on se mette à l'œuvre à une heure si tardive. On prépare la couchée. Chacun sait ce qu'il en a coûté à nos pères, à Naples, à Marignan, pour avoir commencé l'attaque peu avant la nuit. D'ailleurs, c'est le jour des innocents, et jamais nos ancêtres n'ont livré de bataille un jour de fête. Laissons là les innocents du calendrier, reprit vivement Jauch. Et souvenons-nous de ceux que nous avons laissés dans nos chalets. Gaspard Godley, de Zurich, frère du commandant des granges, joignit ses instances à celles du brave Durie. « Il faut, dit-il, ou combattre les Zurichois ce soir, ou être battu par eux demain. Choisissez. » Tout était inutile. Les chefs se montraient inflexibles, et la troupe se préparait à camper pour la nuit. Alors, le hardi Jauch, comprenant comme autrefois tel son compatriote, qu'il faut aux grands maux les grands remèdes, tire son épée et s'écrie « Que les vrais confédérés me suivent !» Puis, sautant précipitamment en selle, il lance son cheval dans la forêt. Des arquebusiers, des soldats de la Dige, plusieurs autres braves des cinq cantons et surtout d'Underwald, en tout environ 300 hommes, se précipitent dans le bois sur ses pas. À cette vue, Jauch ne doute plus du salut des Waldstedt. Il descend de cheval, se jette à genoux, car dit, choudi, il était un homme craignant Dieu. Ces gens font de même, et tous ensemble invoquent le secours de Dieu, de sa Sainte Mère et de toute l'armée céleste. Puis, il s'avance. Mais bientôt, le guerrier Durie, ne voulant exposer que lui seul, fait faire halte à sa troupe et se glisse à travers les hêtres jusqu'au bout du bois. Voyant alors que l'ennemi est toujours dans la même imprévoyance, il rejoint ses arquebusiers, les fait avancer mystérieusement et les place en silence derrière les arbres de la forêt, leur enjoignant de préparer leur coup de manière à ne pas manquer leur homme. Pendant ce temps, les chefs des cinq cantons, prévoyant que cet imprudent va engager la bataille, se décident malgré eux et rassemblent leurs soldats sous les bannières.